Lecture pour vous. Une émission conçue et animée par Fernand Bailhac. Tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Lecture pour vous. Auditeur. Que vous soyez ou non amateur de lecture, que vous ayez ou non le temps et le goût de lire, vous avez tous gardé, j'en suis sûr, la nostalgie de votre petite enfance, l'époque où on vous lisait des histoires et des contes avant de vous endormir. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de la magie de ces livres qui avaient pris la chair d'une voix familière dans une lecture rien que pour vous. Sans interdit a été écrit par un certain Edgar d'Orsay. Mais j'entends le chef de gare qui siffle le départ. Alors, en voiture, hein, et bon voyage en sans interdit. Résumé du chapitre précédent. Hervé, le jeune et riche exploitant forestier du Gabon, a été rapatrié en France, au Boulou, pour soigner ses maladies tropicales. Il comprend qu'il ne retournera plus en Afrique et s'installe à Banyuls où il subit les assauts sentimentaux de sa jolie cousine Nathalie. Pour la décourager, il a monté une scène grotesque à base de poupées gonflables. Non, de poupées en silicone grandeur nature. Même pas, puisque la fournisseuse de l'article attendu, Claire Lartigue, a dû se substituer à la poupée au dernier moment, sur l'insistance d'Hervé. Celui-ci a enfin expédié sa cousine dans l'avion de Paris et rentre chez lui. Claire a dû quitter la villa pendant ce temps. Chapitre 12. Retour de manivelle. Pendant tout ce temps-là, Claire n'avait pas chômé, farfouillant par curiosité, mais avec méthode, dans les papiers et les carnets du secrétaire. L'agenda téléphonique fut surtout très apprécié. Quelques adresses de rétorsion massive étaient le gage d'un sain équilibre de la terreur. Elle observa quelques photos pour la forme, mais fut attirée par une grande coque blanche, élinguée entre ciel et eau dans le port de Pourvandre, qu'elle reconnut. La photo était récente. Elle retrouva sur une autre photo le petit yacht, racé, gréé en golette franche, avec un pirate blond à la barre, qui lui rappelait quelqu'un. À son retour, quand Hervé découvrit le cabriolet, bien en évidence sur le parking, il fut pris d'un pressentiment angoissant. La maison était ouverte, apparemment en ordre. Il sauta dans le salon, vide, puis dans sa chambre, vide. Il retourna sur la véranda, et de là, aperçut Claire, au bord de la piscine, allongée sur le côté en maillot de bain, un verre à proximité. Elle lui fit un petit signe de la main. Elle a eu son avion, tout va bien? Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous avais dit que je ne voulais plus vous voir. Il était franchement en rogne et il criait carrément. La pièce a eu du succès, on joue des prolongations avec effectifs réduits. Il se rapprocha. Elle était simplement magnifique, sans maquillage, mais très bien coiffée sous un grand chapeau de toile. Au soleil, son corps ne ressemblait plus à ce fantasme artificiel qu'il avait observé dans l'ombre de sa chambre. La pose était noble et déroulait avec art ses formes parfaites. N'eût été les verres des yeux On aurait dit une autre. Où sont les bagages? Partez immédiatement. Vous ne pouvez pas rester ici. Mais que si. Je voudrais bien voir comment vous y m'y obligeriez. Parce que vous avez une tati, Mathilde Barra. Tiens, comme Nathalie Barra, par exemple, dont je connais très bien le numéro de téléphone et qui aurait du mal à assimiler certains problèmes de notre époque, surtout quand ils arrivent à ses petits-neveux. Bien sûr, elle laissa un grand moment de silence remplir l'espace. Elle but une gorgée de son verre en faisant la grimace. « Vous en voulez un peu ? C'est très fort. » Elle le trouvait émouvant, ce grand pirate blond, piteux et désarçonné comme un gamin qui s'est fait piquer la main dans un pot de confiture. Il réagit très vite. « Comment voulez-vous qu'elle vous croie, si je nie ?»« Hé, Nathalie, ce n'est pas un témoin, peut-être ? Souvent, femme varie. Et vous oubliez votre chèque, sans compter le mot d'accompagnement. » Il s'assit en pensant à l'antilope prise au piège et au drôle de sentiment composé qu'il avait eu ici même 2 jours avant. Cette fois, c'était lui qui était au fond du trou, et c'est l'antilope verte qui le regardait se débattre. Il reprit. « Quelle belle salope vous feriez !»« Parole d'expert, mais corrigez s'il vous plaît. Quelle belle salope je fais ! Parce que moi, je n'ai pas besoin de téléphoner pour me faire croire. » Il réfléchit puis. Allez, 2 nuits, pas plus, comme vous. Elle soupira, enleva lentement son chapeau, secoua les cheveux, rendit son regard le plus maternel possible et lui posa la main sur le poignet. Hervé, souvenez-vous, à la même place, il y a 2 jours, vous m'avez dit des choses très douces, très justes. Moi aussi, même si je vous trouve très, très attirant, je ne vous contraindrai pas. Vous n'aurez ni 1 ni 2 nuits à passer avec moi. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de gigolo. Je préfère les beaux copains bien sympathiques. Il releva la tête, un peu rassuré, puis se laissa bercer par l'onde verte. Vous savez, vous m'avez fait perdre la croisière sur laquelle je comptais m'embarquer ce matin même à Barcelone, et qui m'aurait amené en Méditerranée pendant presque 3 semaines. Tiens, 3 semaines, le temps de la location de la poupée. Je comptais beaucoup sur cette croisière, depuis longtemps, et elle m'a coûté très cher, au point que je ne pourrais pas prendre d'autres vacances cette année. Il reprit. Je suis vraiment désolé pour vous. Si je peux vous aider, vous ne m'aviez pas dit. Vous m'auriez cru? Non, vous ne pouviez pas vous arranger autrement. Mais je vous crois, moi, aujourd'hui, quand vous me proposez de m'aider. Et alors? Alors, la durée de la location était de 3 semaines, n'est-ce pas? Eh bien, je reste 3 semaines ici, à vos côtés, pour remplacer la poupée en quelque sorte. Mais en tout bien, tout honneur, évidemment. Et vous oublieriez le numéro de Mathilde? Définitivement. D'ailleurs, j'ai une idée. On va écrire tout ça sur un contrat. Entre salauds et salopes, les contrats, c'est mieux, ça nous délie. Vous avez un ordinateur, une imprimante? Il rentra au salon comme un somnambule. N'était-il pas en train de se faire hypnotiser ? Ils se mirent côte à côte devant le PC et commencèrent la rédaction par le préambule d'usage. Attendu que le tort réciproque de M. Hervé Desbordes, ci-dessous nommé Hervé, et Mlle Claire Marchand, ci-dessous nommée Claire, se sont occasionnés en date du vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet 2000. Ayant donné lieu à réparation complète et satisfaisante par Claire envers Hervé. Le contrat suivant stipule les conditions irréfragables et intégrales par lesquelles Hervé donnera réparation définitive à Claire et éteindra tout recours et tout droit à valoir par celle-ci. Article 1, les parties. Identité, domicile, etc. Article 2, les préjudices objets du contrat de réparation. À charge de Mademoiselle Claire, un défaut caractérisé et grave à un accord commercial de location de services d'une valeur de 2 500 € TTC, passé avec Hervé en date du. À charge de Monsieur Hervé, la perte irrécupérable par Claire d'une croisière méditerranéenne au départ de Barcelone en date du 31 juillet d'une valeur de 2800 euros. Article 3. Réparation des préjudices. Claire est déclarée, par le présent article, acquittée de sa dette et de toute contestation et recours ultérieur, en s'étant chargée avec succès d'une opération délicate d'intermédiaire dans une affaire sensible aux intérêts de Hervé. De son côté, Hervé est tenu d'éteindre tout recours de la partie adverse et celle-ci sera déclarée libérée de son préjudice par l'exécution exacte en modalité et en durée de l'article 4 du présent contrat. Article 4. Programme de réparation de Hervé. Durée. Du jour de la signature du présent contrat au 22 août 2000 machin. Modalité. Hervé s'engage à titre gratuit à fournir à ses frais le gîte et le couvert de Claire, à organiser et financer toute sortie en lieu public et de distraction, et plus généralement toutes actions capables de procurer à Claire des moments de vacances et de détente, dans un cadre à sa convenance et à son choix. Les frais engagés seront consignés sur un cahier annexé et ne pourront en aucune manière excéder le montant total du préjudice, soit 2800 euros TTC. Article 5. Contrainte réciproque de bonne conduite. L'attitude constante de Hervé devra s'inscrire dans le code de politesse, de bonne conduite et de courtoisie d'un homme éduqué suivant les principes de la meilleure société française et s'empêcher de toute tentative séductrice visant à faire évoluer ses rapports de camaraderie avec Claire. Attendu que l'attitude constante de Claire devra s'inscrire dans les mêmes dispositions et ne prétendre à aucune dérive amoureuse ou séductrice qui aurait les mêmes objectifs envers Hervé. Il lui proposa « C'est bon pour vous cet article? Ce n'est pas trop contraignant au moins ?»« Non, Hervé, c'est parfaitement synalagmatique. Mais ça risque d'être curieux quand on se rend en public, vous trouvez pas ?»« Il me semble que si, la réflexion. Il faut trouver une idée du style article 5, troisième alinéa. Néanmoins, dans le domaine public et seulement dans ce cadre... Les parties auront toute latitude, si elles en éprouvent la nécessité au vu du contexte, et pourvu que cela reste dans les limites de la décence ordinaire, à donner l'image d'un couple formé et amoureux. Amoureux, c'est pas un peu vague? Non, justement, on l'adaptera en fonction de l'environnement. Allez, si vous ne trouvez pas mieux, allons-y pour amoureux. J'écris. D'un couple formé et amoureux, point. Article 6. Pénalité. En cas de retard ou d'empêchement temporaire de l'exécution de l'article 4, la durée du présent contrat sera prorogée de la même période et dans les mêmes conditions, sans pouvoir excéder la date du 31 septembre. Article 7. Enregistrement et juridiction d'arbitrage. En cas de litige survenant entre les parties, vous ne croyez pas que ce n'est pas la peine ? Non, allez, entre salauds, on aurait bien arrivé à s'entendre tout seul. Et ça nous économisera des sous. Signature des parties, lu et approuvé, le A. Allez, relisez. C'est bon, j'imprime. J'en fais trois. Un pour le notaire, quand même, des fois qu'on perdrait un original. Et toc, allez, trois. On signe sans délai de réflexion, d'accord? Et parfait toutes les pages. On aurait dit... Deux copains qui fêtaient une victoire commune. Ils étaient d'autant plus beaux qu'ils étaient très soulagés par cette conclusion. Sous les apparences, ils se faisaient vraiment confiance, car ils se doutaient que leur dureté passée n'était pas le fond de leur caractère. Alors, on trinque ? Allez, venez ici que je vous embrasse. Si c'est prévu dans le cadre de l'article 5, très volontiers. Article 5 ou pas, ce fut assez agréable pour tous les deux. Chapitre 13. Vacances catalanes. Je saute à la cuisine, vous allez voir, je me débrouille. Ah, faire la cuisine en bikini, ça, c'est les vacances. Je mets la table dehors et je range la voiture, d'accord? Une salade de concombre, ça vous irait? Ils avaient faim et la rédaction du contrat avait pris une grande partie de la matinée. Sous l'ombre de la véranda, le repas léger et frais leur parut délicieux, en si charmante compagnie. Ils firent un bout de chemin l'un vers l'autre, en distillant chacun à son tour certaines parties de leur vie, mais en gardant une réserve prudente sur l'essentiel. Entre salauds, il ne faut pas trop en lâcher, surtout au début. Hervé était le plus sur ses gardes, ayant bien compris à quelle fine mouche il avait affaire, son intuition et son intelligence lui étant désormais perceptibles. Tout en lui parlant du Gabon et de son métier, il taisait sa famille et sa fortune. Claire comprit assez vite que même le rosé de Totavel n'éclairerait pas de sitôt ce vaste royaume d'ombre. Elle resta particulièrement discrète. Il fut très curieux du parcours universitaire et professionnel de sa pensionnaire et secrètement admiratif de cette beauté, femme d'affaires lucide et ambitieuse. Mais à ce stade de leur rencontre, le domaine privé de la belle n'avait jamais autant mérité son nom. Néanmoins, à quelques allusions, il comprit que c'était une femme libre. De son côté, elle saisit qu'il n'avait aucune attache, ce qui corroborait bien les circonstances dans lesquelles ils s'étaient rencontrés. Il était prématuré, pour tous les deux, de revenir trop vite sur Nathalie et sur ses liens avec Hervé. À la fin du repas, l'impression de Hervé est qu'il avait finalement pas mal de chance de passer un si bon moment avec une femme aussi fascinante physiquement et aussi intelligente. D'ailleurs, leur connivence se tissait assez vite, mais elle s'affirma pendant la vaisselle faite en commun, ce comme s'ils l'avaient faite ensemble depuis toujours. Qu'ils le veuillent ou non, ils se trouvaient, comme on dit. Les assiettes, vous devriez les ranger dans le placard du bas, non? Par contre, les verres, moi, je les mettrais plutôt en haut à portée. Oh, vous savez, ce sont mes habitudes, mais on pourrait essayer. Excusez-moi. Des vieux réflexes de célibataire maniaque qui me reprennent. Comme moi, j'imagine. Le rire éclaté en commun valida cette étape. Il prit bien soin de contrôler la distance physique qui les ramenait par la force des choses à l'immédiate proximité, et furtivement parfois au contact de ce corps idéal. Il eut le plus grand soin, et quelque mal aussi, à guider ses regards hors des zones troublantes. Claire s'en douta vite, et un chic fille mit fin à son supplice en allant enfiler une chasuble d'étamine blanche mi-courte. L'épreuve était concluante pour cette partie du contrat. Les cigales appelaient à la sieste. En quittant le salon, Claire avisa un précieux échiquier posé sur une table, toute pièce rangée pour la bataille. « Je sais que vous êtes joueur. On fait quelques parties ?»« Vous jouez aussi ?»« Mais comment savez-vous, au fait ?»« Un certain coup de film est resté dans la mémoire. Vous le portez dehors ?»« Je ne suis pas très entraîné, vous savez, et je crains que... » Hervé ne se tenait plus de joie. Enfin, une partenaire avec qui il brûlait de confronter l'art que son jeune maître lui avait communiqué. C'était en plus un bon moyen de se valoriser intellectuellement face à la belle. Bien installé, à la romaine, sur des matelas de piscine, à l'ombre de la véranda, la première partie fut expédiée par Hervé sur un truc classique coup du berger élémentaire. Visiblement, elle n'était pas de force. Il le regrettait déjà en jubilant de l'effet qu'il lui faisait. De son côté, Claire le voyait bien. La deuxième partie, il avait pris des noirs en bon africain, démarrait comme une partie du pion de la reine, et soigneusement cadenassée par l'apprenti, commençait à s'enliser dans des échanges prudents. Hervé voyait ses positions s'affirmer, et forcément son attention se relâchait un peu. Il fut d'autant plus surpris par cet échec à la découverte qu'il ne le découvrait qu'en bas de finale. C'était la réponse de la bergère au berger. Il la félicita hypocritement, mais au fond, assez mortifié par le brillant de la finale qui renversait en quatre coups une partie jouée d'avance. Eh, vous retrouvez vite, on dirait. Allez, et maintenant, la belle. La belle, elle, faisait sa modeste, en rajustant sa chasuble et en estompant un sourire vainqueur. Il était trop tôt dans leur rapport pour le faire perdre. Il suffisait qu'il soit susceptible ou mauvais perdant, blessé dans son orgueil de mâle, et il ne jouerait plus. De toute façon, c'était un coriace. La belle romaine, languie, pensa, en réprimant un sourire, que ce serait le combat des coriaces contre les voraces. Grand roc, petit roc. La défense indienne, variante Grunfeld, était passionnante. Il n'étudiait plus les ombres sensuelles de l'étamine, ni l'ambre naissant de ses jambes, mais il se fixait sur une tactique apprise de son maître du boulot. Il allait lui montrer. Elle défendait avec astuce et méthode, très concentrée elle aussi. La partie durait depuis plus d'une demi-heure, et les cigales semblaient décompter le temps de chaque joueur. À un moment, ils se regardèrent avec du défi dans le regard, et de l'admiration peut-être. Les développements étaient magnifiques, et les risques évidents. Son grand secret de piège se grippa sur une réponse improbable de Claire, mais il tenait la partie au vu du rapport de force encore en place sur l'échiquier. 15 coups plus loin, elle le mit patte sans qu'il n'y ait pu s'y opposer. Il ruisselait. Quand il rencontra ses yeux verts, tendres et comblés, il saisit qu'ils avaient beaucoup de parties à jouer ensemble. Leur duel avait pris une dimension physique éreintante au travers de leurs pièces, de leurs sujets. De leur poupée. Il se retint de lui proposer un « alors heureuse » qu'il aurait peut-être bien fait rire, mais article 5 oblige. Ils se passèrent de commentaires qui n'auraient que banalisé ce duel inattendu et savoureux. Et ils décidèrent d'en rester là pour aujourd'hui. Il lui proposa de descendre sur la côte pour visiter Bagnouls et Collioure, puis de manger les spécialités dans un grand restaurant. Ensuite, on flânerait sur les quais et sur la plage le soir. Pas original, mais incontournable. Elle acquiesça avec enthousiasme. Fallait le laisser sur son terrain au début. Inutile de vous raconter par le menu les balades dans les ruelles dallées de schiste, au milieu de la foule des touristes, les peintres et leurs variations infinies de l'église fortifiée au bord de l'eau, son clocher-tour, sa galerie de machicoulis sur plan blanc lance, les plages trop petites pour la marée humaine, les trois grandes barques catalanes tirées au sec sur la grève, les quais dominés par les murailles noires des forts. Histoire d'inaugurer le troisième alinéa de l'article 5, il lui prit timidement la main pour se faufiler dans la foule qui encombrait les placettes pittoresques. Il recherchait les plus beaux cadrages pour s'imbiber de cette ambiance de fête et d'été dans le flot des vacanciers détendus. On était, sans nul doute, en public, et les innombrables couples d'amoureux qu'il croisait les invitaient à les imiter. Et ils auraient eu l'air de quoi, les bras ballants à 30 centimètres l'un de l'autre, s'opposant à un courant de gens qui les aurait obligés à se serrer de toute façon. Leurs sourires épanouis auraient mal cadré avec une distance de gens indifférents. Le bras de Claire, négligemment jeté autour de sa taille, alors qu'il se penchait au parapet de la muraille au-dessus de la mer, lui confirma qu'elle partageait son analyse. « Troisième alinéa ?» lui demanda-t-il en lui enlaçant les épaules. « C'est quand même superbe, vous trouvez pas cette grande mer calme ?» Ils étaient superbes, eux aussi, quand ils entrèrent dans le pittoresque restaurant de fruits de mer où il avait réservé. La salle, qui était déjà comble, se retourna, unanime, pour admirer le jeune couple dans sa traversée jusqu'à la petite table qui les attendait. Et il y avait de quoi. Le grand pirate blond, avec son costume bleu pâle, faisait un passage entre les chaises à l'incroyable mannequin aux yeux verts. Avec sa robe jaune paille à plis qui se balançait amplement, la large ceinture bleu roi qui la faisait si mince, le décolleté bateau et les cheveux flous mi-longs, elle progressait de toute sa taille, d'un pas souple et régulier, happé par le sillage du costume bleu. Le poisson pilote de serveur, qui leur servait d'étrave, le sourire entendu, en contemplant l'écume des regards et la houle de mouvements de tête des autres clients, était assez renseigné sur le cortège qu'il drainait. Hervé indiqua à Claire la table, d'un geste, puis vint lui tenir la chaise pour que sa robe s'étalât au mieux. Elle lui lança un regard plein de reconnaissance. Il avait bien été éduqué suivant les principes, etc. etc. À peine se plaça-t-il, lui aussi, en face de l'icône, qu'une série d'ajustements de position de chaise et de regards lancés par-dessus des épaules ou des têtes agita le restaurant. Tous n'avaient pas le même point de vue, mais beaucoup s'en délectaient. Le silence se rechargea progressivement de murmures et de commentaires dans l'assistance. Des hommes souriaient, blasés. Des femmes, aux sourcils serrés, surveillaient la direction des regards des mâles. Les conversations reprirent et les pinces à homard craquèrent à nouveau. L'air était chaud et la bisque un peu tiède. Le ressac avait du mal à se faire entendre dans le touti des conversations, mais tout ça était tellement charmant qu'ils s'en amusaient beaucoup. Leurs mains se frôlaient bien de temps en temps, mais la conversation les occupait trop pour qu'ils en rajoutent dans leur rôle public. C'est ainsi que la nuit, à regret, tomba complètement. On apporta des bougies dans de grands verres de Lamparo, et les airs de Sardane défilaient dans la sono. Beaucoup étaient sortis à la recherche de la brise nocturne en lançant un dernier coup d'œil à la petite table. Hervé pouvait la contempler avec régal et tranquillement se griser du parfum et des charmes de la partie adverse. Ils sortirent après que Hervé eut soigneusement rangé la note dans son portefeuille. Dans la nuit catalane, elle lui déposa à l'improviste un bisou sur la joue en signe de satisfecit. Ils se promenèrent un long moment, les pieds nus dans le sable humide, le bout des doigts à peine accroché, en chantonnant sur une plage sans lune. Ils écoutaient, silencieux et attentifs, les petites vagues mourir dans le noir. La ranch les remonta, un peu transie et humide, dans leur colombier, sans d'autres commentaires que le sobre « c'était très bien, vraiment » de Claire. Ils regagnèrent leurs chambres respectives en plaisantant. « Et bonne nuit à Christina ! Que le fantôme de Nathalie vous tire par les pieds !» Le matin réchauffait déjà les cigales quand ils prirent leur premier petit déjeuner ensemble. Ils s'habituèrent progressivement à soutenir leurs regards. Les souvenirs de la veille ne leur évitaient pas d'être essentiellement des étrangers l'un pour l'autre. Ils firent une longue promenade amicale dans les hauteurs de la propriété, dans les pinèdes et sous quelques antiques oliviers d'une vieille parcelle. La paix du matin et le bleu intense du ciel semblaient des cadeaux inestimables qui avaient le pouvoir de dissoudre les relents de leur rancœur réciproque. Ils ne savaient plus très bien, chacun à sa manière, pourquoi ils se trouvaient là, assis contre ce même tronc d'olivier, en respectant comme de vieux amis d'enfance le silence de l'autre, les regards captivés par le même horizon marin. Ils redescendirent pour profiter de la piscine à midi. Claire, qui n'était pourtant pas mauvaise nageuse, rendait 3 longueurs à Hervé sur les 2x25 mètres. Elle se rendit compte que c'était un sacré athlète, puissant et souple, à la force cachée sous une aisance naturelle. Hervé retrouvait progressivement toute l'énergie et le tonus qu'il avait un peu perdu pendant son séjour médical. Alors que Claire, de son côté, chassait tous les soucis de l'année et se prenait à espérer que ce séjour méridional, aux circonstances si extravagantes, constituerait l'épisode de détente et de distraction qu'elle attendait depuis longtemps. Que cet équilibre instable de vacances devienne un bon souvenir ne tenait pas qu'à elle, mais elle devrait beaucoup y contribuer. Ils iraient manger dans les environs de Perpignan, à Cabestany, une caragolade, grillade à profusion de petits escargots de fenouil accompagnés de saucisses du pays et arrosés de vin de Maury. En rentrant des longues plages et des étangs, ils iraient faire des provisions pour les repas à la maison et finiraient sous la véranda devant l'échiquier. C'était une journée de transition, faut pas abuser du romantisme. Hervé révéla des talents cachés de gentil organisateur et d'office de tourisme privé. Claire avait l'embarras du choix, soit la Catalogne ibérique, si proche et si attirante, qui leur procura de grandes joies à partager. La visite du musée d'Ali, de Figueras, tout crénelé de ses œufs gigantesques, et le circuit des églises romanes du versant sud des Pyrénées. Elle connaissait bien l'œuvre de Dali, ses recherches picturales et tout l'intérêt du surréalisme. Aussi, elle renseigna Hervé, très curieux, sur les anamorphoses du maître, si différentes des métamorphoses d'un Escher, par exemple. Ils contemplèrent les mises en scène d'agencement et d'illusions optiques et les célèbres décors d'ameublement stylisant le portrait de Marilyn Monroe. Elle lui cita une des phrases clés de la théorie d'Alien. L'activité paranoïaque critique fait passer tangiblement le monde du délire sur le plan de la réalité. Ça ne vous rappelle rien? Peut-être. Quand une, mettons, Nathalie observe dans la confusion une femme se faisant passer pour une poupée qui serait déguisée en femme, qu'elle croit que c'est une femme et qu'on la persuade que c'est une poupée. Si c'est pas du pur réalisme, après tout. Moralité, comme disait Freud, il faut chercher dans les tableaux réalistes le subconscient et dans les tableaux surréalistes ce qui est conscient. Il lui répondit, « Je vais m'y essayer, promis. » Hervé lui rendit les mêmes services de guide esthétique et culturel dans la longue série de visites de ces petits chefs-d'œuvre du roman catalan qui parsèment les contreforts pyrénéens du Sud. Il était incollable sur les symboliques et les messages apparents ou cachés de ces fresques, témoins d'une magnifique tradition de chrétienté et d'évangile en images. Il est vrai que ses longues siestes au boulot lui avaient permis de se passionner pour le sujet. Claire était admirative et réellement intéressée par la précision et la belle simplicité avec laquelle il lui ouvrait ses portes mystérieuses. Cette admiration et l'apport qu'ils se faisaient mutuellement et sans pédanterie contribuèrent à les rapprocher encore plus. Une de leurs virées, au sud des Pyrénées, les amena à Gérone, un dimanche où se déroulait une course de taureaux dans l'après-midi. L'occasion était à saisir, et Claire était tout excitée à l'avance d'assister à un de ces mystérieux et tragiques spectacles impossibles à connaître dans ces régions septentrionales. La présence de Hervé, à ses côtés, lui donnait le courage pour combattre ses appréhensions et peut-être ses préjugés. Hervé, sans enthousiasme particulier, accepta de l'y mener. Il était en fait lui aussi un peu curieux de savoir si ça tenait plus du ballet rituel primitif ou de l'expulsion de tendances sanguinaires populaires. Aux abords des arènes, ils furent immédiatement saisis par la fièvre festive, l'agitation et la joie des gens. Des enfants couraient partout, en dimanche. Beaucoup s'étaient très bien habillés, et colonnes de jeunes, en bande, comme les gens de tous âges, d'ailleurs, s'avançaient vivement vers cette cérémonie esthétique. Ni Claire, ni Hervé ne déparaient dans cette ambiance de soleil, tant leur élégance et leur allure semblaient avoir été précisément adaptées pour l'occasion. Dans la cohue Bon Enfant, Ils progressèrent dans l'escalier sombre, comme happés par le carré de ciel bleu tout en haut. Et ils débouchèrent, aveuglés, au bord du cratère rond, sable et rouge, qui se garnissait de couleurs, de chemises blanches et de mantilles sombres. Ils cherchèrent leur place dans les premiers gradins à l'ombre, tout près des talanqueras. Hervé n'avait pas lésiné. Et du coup, il se retrouvait au milieu d'un parterre de très jolies filles et de messieurs très chics. Beaucoup d'aficionados, en tout cas. La brise apportait aux narines des parfums de cigares. L'ambiance était soutenue par la bande de musiciens qui enchaînaient les passodobles pour faire patienter les gens. Finalement, l'arène finit par se remplir jusqu'au sommet des gradins. L'ombre gagnait en croissant de lune, jusqu'à ce que la foule manifesta une pression de plus en plus véhémente. On entendait des cris traversant le bruit continu des conversations. La tension montait à vue d'œil jusqu'à la joie bruyante provoquée par un signe imperceptible de la présidence qui déclencha les clarines d'entrée. Le paseo était imminent. Précédé des deux alguaciles noirs sur chevaux noirs, le défilé noble et orgueilleux des trois toreros et de leur cuadrilla commença alors. Leurs costumes, si précieux, aux couleurs fines et recherchées, rehaussés de parures dorées, les toques noires, les bas roses, les attitudes et les démarches, relevaient bien d'un ballet tiré du XVIIIe siècle. Après les saluts à la tribune et à la foule hurlant son enthousiasme, tous les danseurs se retirèrent à l'abri des barrières de bois rouge et jaune. Claire distingua très bien la jeunesse presque puérile des trois matadores, la rudesse virile des équipes de peones qui allaient les assister, et les picadors rondouillards et blasés, comme des bourreaux, juchés sur leur rossinante carapaçonnée de couverture piquée d'un rose fané. Elle tressautait à petits cris sur son banc, comme une gamine excitée, et se tournait régulièrement vers Hervé pour vérifier son plaisir et lui montrer sa reconnaissance. Le silence se fit, et l'appel des clarines ouvrit la porte du toril. Le sang de Claire battit très fort, et son cri se perdit dans la clameur générale. Elle ne comprit pas d'où jaillissait le fauve noir qui tournait furieux au galop dans ce rond d'ocre trop petit pour lui, projeté directement de l'ombre de sa cage dans le disque roux d'un soleil couchant. Les clarines sonnèrent à nouveau. Finis les premiers instants d'observation, les péones se placèrent dans l'arène en développant leurs capotes rosaces et jaunes comme des coquelicots passés. Les 400 kilos de fureur noire s'engouffraient dans la fleur légère qui s'effaçait en corolle. Claire était fascinée par le rapport de force, de beauté animale et de grâce, souligné par les hollés de la foule. L'enfant de lumière sortit à son tour et toréa avec élégance. Les péones ramenaient la bête sur le terrain que le maître avait choisi. Elle ne pouvait croire que le frêle bonhomme s'esquiverait de ses charges, dévié à l'ultime instant d'un simple mouvement de poignet, d'un pas latéral imperceptible. Et quand il l'attendit à genoux, faisant passer la masse comme dans un pas de danse, le capote s'envolant au-dessus d'eux, Hervé et Claire crièrent d'admiration. Les Véroniques se succédaient sous les applaudissements qui emplissaient le stade. Les clarinants on sait encore l'entrée des picadors guidant leur cheval aveuglé près des barrières, la lance levée. Le taureau, plein d'énergie, soutint trois piques avec ardeur pour que l'animal, affaibli, soit rabaissé au niveau des humains. Claire détourna la tête et le cacha dans l'épaule de Hervé. Elle était bien assez renseignée sur la sauvage intensité de ce qui advenait dans le rond, par les clameurs, les cris de réprobation et les applaudissements mêlés qui remontaient en houle autour d'elle. Hervé lui entoura les épaules et lui rangea quelques mèches. Puis vint le moment du sort des banderilles, ces courts harpons ridiculement décorés de fleurs en papier que des hommes dansant viennent planter d'un coup de poignet vif dans le garrot juste au-dessus des berceaux des cornes. L'adolescent salua le public de toute sa cambrure en pivotant sur lui-même comme une poupée mécanique de boîte à bijoux. Puis il défia le taureau, le bassin largement offert à ses armes. Le taureau prit son élan et se précipita vers lui. Quand ils eurent croisé leur course, l'animal avait gagné deux fleurs de plus à son bouquet de roses trémières et tenté de s'en défaire. Le matador, quelques pas plus loin, saluait, immobile et ravi, sous les ovations. Claire battait des mains, comme tout le monde. Le travail de la moulette, qui suivait immédiatement, intervint. Les péones avaient restitué l'animal sur le bon terrain à coups de capote rageuse, pendant que le matador piquait à la pointe de l'épée le petit drap rouge vif pour en étendre le leurre. Le balai rouge, or et noir, qui suivit, était très apprécié des amateurs, qui faisaient succéder les silences inquiets et les ovations accompagnant les passes de poitrine et autres naturels. Mais c'était les risques permanents de ce pauvre petit jeune homme qui émouvait surtout notre parisienne. Hervé semblait conquis par cette chorégraphie sur fond de passodobles où toro et torero semblaient exécuter avec une connivence passionnée une danse mortelle répétée de longue date. Le sang qui teintait le flanc de l'animal colorait l'habit de lumière, preuve des contacts physiques. La tête, où on ne distinguait maintenant qu'à peine l'œil de la bête, semblait se faire plus lourde désormais. Le taureau s'arrêta pour souffler. Le matador se retira de quelques pas, tout près de l'animal exténué par ses charges stériles, dégagea l'épée et, abaissant la muletta jusqu'à ses pieds, arma la lame, la main à hauteur des yeux pour viser l'animal. Il l'appela, tandis que la foule se partageait entre cris de demande de prolongation du travail et les appels au silence de ceux qui estimaient que l'heure était arrivée. Il convoqua deux fois l'animal au rendez-vous de la mort. Mithra n'était pas loin, ni le Minotaure, ni encore plus avant, les premiers hommes fascinés par la force et la beauté de ces monstres et qui les combattaient à pied, la mort choisirait son tribut. Le taureau s'élança enfin et l'homme le reçut en plongeant entre ses cornes. La lame les relia un instant comme un éclair. L'or bascula d'un côté, le sang est noir de l'autre pour s'effondrer, quelques pas titubants plus loin. Claire n'entendit pas tout de suite la clameur immense qui avait rempli l'arène et qui continuait comme un tonnerre à l'ébranler. Elle s'obligea à fermer les yeux, encore dans l'angoisse de cet instant, et les ouvrit sur un regard amoureux de Hervé qui applaudissait comme un fou. La musique donnait à tout rompre. La présidence accorda une oreille et trois chevaux de trait enlevaient déjà la dépouille sanglante. Le petit jeune homme vint saluer, libéré et glorieux, son oreille à la main, tout autour de l'arène, suivi par l'équipe qui ramassait fleurs et chapeaux. Il arriva à la hauteur de Hervé et de Claire, qui étaient debout comme tout le monde, en battant des mains. C'est alors que l'imprévisible se produisit. Comme il passait, avec tout son sourire, illuminant une candeur fatiguée, il revint se cadrer en face de Claire. Il la fixa intensément, embrassa sa montère, son petit chapeau noir, puis d'un geste noble et sûr, la fit atterrir dans ses bras. Elle était figée de surprise et de bonheur, qu'il la discerna parmi la foule de ces innombrables jolies filles. C'était incroyable. La foule riait de bon cœur et applaudissait de plaisir. La touriste en valait la peine pour une fois. À ses côtés, on lui soufflait. À ses côtés, on lui souffla. « Hay que devolverla, il faut la rendre. » Elle ne savait que faire, ne comprenait pas, consultant Hervé du regard. En riant de plus belle, Hervé saisit la coiffe d'Astrakhan, la porta aux lèvres de Claire et la renvoya à son propriétaire, ce qui déclencha une nouvelle salve de rire et d'applaudissements. Claire rougit un bon coup et rit avec la foule en faisant un adieu au torero qui repartait compléter sa vuelta. Mais la foule ne regardait plus qu'elle. Le spectacle se renouvela 5 fois, chaque torero combattant alternativement. À chaque intermède, on tournait de plus en plus les regards dans la direction de Claire et de sa beauté lumineuse de déesse dans cette cérémonie païenne. Hervé en profita pour se serrer un peu plus et lui entourer la taille. Il s'agissait de marquer son terrain. Ses matadors sont si séduisants. Claire se laissa faire volontiers et alla jusqu'à lui poser une main crispée sur le genou lors d'une séquence un peu dramatique. Oh, les belles vacances! À la fin, un spectateur voisin, un ascétique vieux catalan à fines moustaches au poivre et sel, qui savait juste assez de français pour le parler comme Voltaire, mis comme un milord et plein de bonnes vieilles manières, se présenta au couple. Il les invitait, ayant compris leur ignorance, le spectacle de tauromachie. Et trouvant tellement sympathique, pour leur en parler tout en dégustant des tapas dans les meilleurs bars de Gironde. Ils ne pouvaient refuser tant de gentillesse et d'hospitalité catalane. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent tous les trois, attablés devant des séries de petits plats très appétissants et si originaux, arrosés d'un rosé très frais, à se faire expliquer rétrospectivement les beautés et les rites de cette fête populaire aristocratique mais sanglante. L'ambiance du bar était fantastique et encore animée des échos de la représentation. Le vieux beau ne réussit pas à effacer les angoisses et les dégoûts de Claire, mais il l'a conquis par sa rhétorique savante et passionnée. Hervé, bien que beaucoup plus convaincu, surveillait tout ça de près. Pour tout dire, il s'inquiétait des nouveaux feux qui s'allumaient sous les sourcils buissonnants de l'aficionado, visiblement passé sous le charme de Claire. Il rectifia la position en se rapprochant de celle-ci, en lui entourant les épaules et en lui caressant légèrement le bras pour mettre en évidence une intimité sans équivoque. Claire frémit un peu sous la douce sensation et s'amusa beaucoup intérieurement de cette jalousie proclamée. Par jeu, elle ignora le geste et persista à questionner l'expert. Le genou de Claire comprit alors que son partenaire suivait et blindait un peu plus. Elle s'amusait de plus en plus, mais, sage, elle mit fin à la partie en déclarant que son fiancé et elle devraient rentrer le soir même en France. Don Manuel s'attrista un peu, et puis ils se séparèrent sur un baise-main plein de classe. Dans la ranch qui les ramenait sur l'autoroute vers le nord, ils ne firent ni l'un ni l'autre mention de cet aspect de l'épisode. Ils ne retenaient, en vieux complices, que l'extraordinaire saveur de cette journée magnifique, domaine privé oblige. Finalement, ces vacances forcées, prises ensemble dans des conditions très hostiles, n'ont l'air de déplaire ni à Hervé ni à Claire. Ils s'apprivoisent doucement. Mais pourront-ils tenir longtemps les termes du contrat qui les lie? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode. Mardi, à 22h. sur CFM. Les illustrations musicales étaient, pour cet épisode, les sardanes du pays catalan et le merveilleux concerto d'Aranjuez. Bye bye. Thank you.